On va maintenant ouvrir la parole de Dieu ensemble. Premièrement, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 47. On va même commencer, on commencera, gardez votre main sur le chapitre 47 et on commencera au chapitre 40. On va lire les 7 chapitres. Non, je plaisante. Surtout ceux-là. On va lire quelques versets du chapitre 40 et puis nous continuerons au chapitre 47. Et avant toute chose, on va encore présenter ces moments, Seigneur. Vous voulez bien ? Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin encore de ton secours cet après-midi pour parler de ta part, pour annoncer ce message que j'ai sur le cœur. Puisse-t-il porter du fruit ? Je sais que de moi-même, je ne peux rien faire qui vaille la peine pour l'éternité. Mais par ton esprit, tout est possible, Seigneur. Tu veux agir dans nos cœurs, tu veux agir dans nos vies pour nous aider à marcher d'une manière digne, digne de la repentance, à porter du fruit, Seigneur, pour toi, à peut-être nous donner ta vie, te donner notre vie plutôt, Seigneur, pour pouvoir être sauvés, à comprendre combien tu as payé cher pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, toutes ces choses, tu nous le révèles dans ta parole. Nous ouvrons la Bible en croyant que c'est toi qui nous parles. Nous réalisons aussi que tu es au présent, au milieu de nous. La chaise à côté de nous, Seigneur, si elle est vide, elle ne l'est pas. Tu es présent, tu es là, tu parles à nos cœurs. Tu n'as pas besoin d'une chaise, tu t'assois sur notre cœur. Nous voulons cela. Nous voulons que tu sois le maître de nos vies, Seigneur. Si quelqu'un ne réalisait pas que tu étais là, tu lui fais sentir ta présence. Tu le convaincs de ta présence et de ta puissance encore cet après-midi. Parce que tu es un Dieu vivant qui aime les hommes et qui les veut pour lui, pour les sauver, pour les bénir. Merci encore d'agir, s'il te plaît. Nous t'en supplions, nous avons soif de toi. Nous voulons te laisser la place, Seigneur, cet après-midi. Que ma chair se taise, Seigneur, et que ton esprit parle. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Amen. 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 Première lecture, donc, dans Ézéchiel, chapitre 40, et verset 1er. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes ces choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Amen. Nous continuons au chapitre 47. Il me ramena, verset 1er, vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, où on étendra les filets. Et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainies, elles seront abandonnées au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de, de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous réalisons la portée de ce que nous lisons, de ce que nous venons de lire, si nous réalisons toute la portée. Je suis convaincu que je ne connais pas encore tout de toute la Bible. J'ai encore beaucoup de temps à passer devant la Bible et même toute ma vie pour y découvrir les trésors que Dieu a laissés dedans. Mais j'aimerais simplement cet après-midi, eh bien, vous poser une question pour commencer. Avez-vous soif de rencontrer ce torrent? Est-ce que vous réalisez ce qui se passe aux côtés de ce torrent? Il y a vraiment des choses merveilleuses, il y a quelque chose qui sort de la maison de l'Éternel, comme de l'eau qui coule sous la porte qui vient à se déverser, et non pas un petit filet d'eau, non pas quelque chose en petite mesure, mais une abondance d'eau au point qu'on peut appeler ça un torrent. Un torrent, quelque chose d'incroyable qui vient, de puissant, qui se répand de la maison de Dieu, et qui coule, qui coule, qui coule, et puis qui répand de bonnes choses sur son chemin. J'ai fait un petit peu le calcul, il nous est dit que ce torrent avait d'abord 1000 coudées, puis 1000 coudées, puis 1000 coudées, puis 1000 coudées, et il n'a pas encore traversé. Ça fait 2 kilomètres de large, le torrent. Il était grand, ce torrent, c'était pas un fleuve tranquille, c'est un grand torrent qui coule et qui a ne serait-ce que de 2000 mètres de largeur à moitié, puisqu'il arrive simplement à un endroit où on ne peut plus traverser, il faut nager. Et je suis sûr qu'il faut au moins la même chose pour traverser et arriver de l'autre côté. Et je suis sûr qu'il n'était pas arrivé au plus profond. Qui sait quel est le plus large fleuve du monde? Et combien de kilomètres il fait, ce fleuve? Je ne parle pas d'un torrent, je parle d'un fleuve. L'Amazone, combien de, allez, je vous le dis, de kilomètres fait-il de largeur? Vous n'êtes jamais posé la question? Moi non plus, jusqu'à tout à l'heure. J'ai regardé, il fait à certains endroits plus de 10 kilomètres de large. Mais c'est un fleuve. Et là, on est sûr au moins d'arriver, je ne sais pas, rien que là, rien qu'il arrive à un endroit où il ne peut plus nager et il n'est pas arrivé au bout, ça fait déjà 2 kilomètres, encore 2 kilomètres, 4 kilomètres, je suis sûr que c'est encore plus grand. Parce que c'est l'Esprit de Dieu aussi qui a servi à créer l'Amazone, hein. Tout a été créé par Dieu, et Dieu a créé cela par son Esprit, avec son Fils, le Père, le Fils, l'Esprit Saint était là dans toute la création. Parce que ce fleuve dont il est parlé, qui sort de la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui coule de la maison de Dieu. C'est cette promesse que Dieu a faite, que de sa maison sortira, jaillira l'Esprit, un torrent qui viendra pour inonder tous ses enfants, pour inonder le monde et tous ceux qui se laisseront inonder. Par lui, il y a quelque chose qui jaillit du temple de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit, nous qui sommes enfants de Dieu. Et de nous doit jaillir le Saint-Esprit. Dieu veut faire jaillir cette eau, ce torrent puissant qui est là. J'imagine cette eau qui est là, qui part plusieurs kilomètres de large et qui part bien à fond, bien fort, et qui sort, qui jaillit et qui sort fort et qui peut tout emporter sur son passage, au point que cet homme, lorsqu'il a cette vision, il dit... On ne peut pas le traverser, parce qu'il faut y nager. C'est pas qu'il savait pas nager, j'en suis sûr. C'est simplement, que le courant était tellement fort et qu'il avait plus pied pour résister, qu'il risquait de se faire emporter par ce torrent. Un torrent puissant, comme l'Esprit de Dieu qui est puissant. Dieu est-il puissant avec une certaine mesure ou est-il tout puissant? Je crois que Dieu est tout puissant parce que c'est écrit. C'est pas moi qui l'invente. Dieu est tout puissant. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes nouvelle, vous qui êtes nouveau, croyez que Dieu est tout puissant, qu'il n'y a rien qui ne lui soit impossible. Qu'importe la maladie, qu'importe la difficulté, qu'importe l'épreuve dans notre vie, le Seigneur est tout puissant et par son torrent, il peut faire des merveilles. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la conséquence de cet esprit qui vient et qui jaillit, eh bien la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a la vie qui est répandue tout au bord, tout à l'intérieur de ce torrent. Nous l'avons lu, qu'est-ce qui se passe? Il sort, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera, etc. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout ce qui est corrompu deviendra sain. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Tout ça, ça va jaillir. Il y aura la vie qui sera répandue. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu a été répandu et la vie est répandue. L'Esprit de Dieu donne la vie. Et vous allez dire, mais moi, je ne suis pas mort. Pasteur, je suis vivant. Vous allez me dire, mais Jérémie, si je suis là cet après-midi, c'est bien que je suis vivant. Et la Bible nous parle d'une qualité de vie supérieure. Peut-être quelqu'un croit être chrétien, croit être sauvé, croit avoir découvert ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Si vous n'avez pas cette vie, cette satisfaction, si vous n'avez pas cette assurance dans votre cœur que vous êtes sauvé, il y a encore de bonnes choses à découvrir par l'Esprit de Dieu qui agira en vous. Voulez-vous avoir une religion ? Et je parle à chacun. Ceux qui font partie de cette assemblée, qui sont même depuis membres depuis des années, ou ceux qui découvrent, voulez-vous d'une religion ? Une religion avec plein d'ordonnances, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ou voulez-vous de la vie de Dieu, de cette vie qui déborde, de cette vie pleine d'expérience avec Dieu, pleine de communion, pleine de paix de Dieu. Ou simplement voulez-vous d'une bonne religion, d'incarner une feuille où vous signez à la fin dans un registre, et puis ça y est, vous faites partie d'une dénomination quelconque, et voilà, ça vous suffit. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez soif de cette vie que Dieu veut donner aux hommes ? Parce que les hommes croient être vivants, on appelle les gens des bons vivants, mais en réalité ils se détruisent. Vous avez vu ? Moi j'ai rencontré des personnes, on m'avait dit ça c'est des bons vivants. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui, je ne savais pas. Et puis quand j'ai partagé un repas avec eux, j'ai compris. J'ai compris. Quand j'ai vu les bouteilles descendre les unes après les autres, j'ai compris ce qu'ils appelaient être un bon vivant. Et puis quand j'ai entendu leur langage, j'ai dit « Ouh, d'accord, j'ai compris ce que ça veut dire pour eux être un bon vivant. » Et lorsqu'on voit tous leurs actes, toutes les choses dont ils se glorifient, dont je me suis glorifié aussi dans mon passé, avant vraiment de fléchir le genou devant Dieu, des choses dans lesquelles ma folie m'emportait, je réalise qu'être un bon vivant, ce n'est pas ce que le monde appelle être un bon vivant. Être un bon vivant, quelqu'un qui vit bien, c'est quelqu'un qui vit la vie de Dieu, la vie éternelle, cette qualité de vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissez-vous Jésus ? Avez-vous goûté à l'Esprit de Dieu ? Avez-vous été saisi dans votre cœur, convaincu que vous étiez pécheur, que votre péché vous emmenait en enfer, mais qu'il y avait aussi l'amour de Dieu qui a poussé à envoyer son Fils pour qu'il soit châtié, qu'il soit puni à votre place et que vos péchés puissent être pardonnés ? Croyez-vous en l'expiation de Jésus ? Que Jésus n'est pas mort parce qu'il avait commis des fautes, n'est pas mort simplement parce qu'on s'est trompé dans le jugement, mais qu'il est mort pour vous et pour moi à cause de nos péchés ? Croyez-vous à cela ? Avez-vous saisi vraiment la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile ? C'est que nous étions perdus, mais nous sommes sauvés à cause de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous et parce que Dieu nous a tant aimés. Amen. Puissions-nous goûter à cette vie, avoir soif d'une vie qui déborde et qui jaillit. Je l'ai dit, ce n'est pas un petit fleuve tranquille ou un ruisseau, mais un torrent que Dieu veut faire jaillir de nos cœurs, à chacun en particulier. Être bouleversé. Qui a été à la plage ? Qui s'est déjà baigné à la plage ? Je vois ma sœur qui vient de Toulon au fond. Elle connaît la plage de Toulon, le Mourillon. On y allait aussi plus petit. Vous avez déjà vu quand il y a le vent et les vagues ? Qui s'est déjà baigné avec des rouleaux, comme on appelle, hein ? Moi, j'aime ça. J'aime ça. Il y avait des grandes vagues, on sautait en même temps. Et des fois, on prenait la vague en pleine figure et ça nous plaisait quand on était petit. Et puis, des fois, on buvait la tasse. Par contre, là, ça nous plaisait moins. Hein ? Mais on est là, ça. On reste pas insensible à l'action du Saint-Esprit, à ce torrent qui jaillit, comme une vague qui vient et qui nous emporte, qui nous emmène avec elle dans une vie bénie, dans une vie nouvelle. Le Seigneur dira dans sa parole qu'il veut pas simplement qu'on soit touché un petit peu par le Saint-Esprit. On a vu que dans ce texte, l'homme qui conduisait Ézéchiel n'a pas voulu qu'il reste au bord et qu'il regarde de loin. Il a voulu qu'il s'approche, qu'il goûte. Ézéchiel a commencé à avancer de 1000 coudées, puis il avait l'eau jusqu'aux chevilles. Puis l'homme l'a emmené encore après, plus loin, et puis c'était jusqu'au genou. Et ça suffisait pas, il l'a emmené encore au loin, et puis c'était jusqu'au rein. Et il l'a emmené encore plus loin, et il a réalisé qu'il fallait y nager pour traverser. Ce fleuve, c'est vrai, il est immense, on fera jamais le tour. Mais Dieu veut qu'on aille dans les profondeurs de sa présence. Et si Ézéchiel est revenu, c'est parce qu'il devait pas rester dans cette vision. Mais je crois que Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous faut vraiment réaliser que Dieu, la présence de Dieu, ses bénédictions, la vie qu'il veut nous donner, c'est pas une vie platonique, c'est pas une petite vie avec peu de profondeur, c'est quelque chose de plus profond que ce qu'on voit. Il faut goûter, il faut être plongé même dans sa présence. Et il va appeler ça le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu va vouloir que tous nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, que nous ayons soif de cette vie d'abondance, de cette vie nouvelle qui bout en nous et qui jaillit même au travers de nous par toutes sortes de bénédictions. Avons-nous soif de vivre ce plongeon, ce baptême dans le Saint-Esprit? Ou disons-nous, moi le bord ça me suffit. Certains ont peur de l'eau. Qui a peur de l'eau? Il y a des gens qui ont peur de l'eau. Et oui, ça peut arriver, on n'a pas à se moquer, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et de la même manière, il y en a qui ont peur du baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'on a entendu, on a vu des choses qui n'étaient pas de Dieu, ça c'est vrai. Il y a eu des débordements, il y a eu des choses comme ça. Mais croyez-moi, on n'a pas à avoir peur du baptême dans le Saint-Esprit, puisque celui qui nous tient la main au bord de l'eau, et même jusque dans l'eau, celui qui l'accompagnait, c'était le Seigneur lui-même qui voulait lui montrer des choses merveilleuses, qui voulait lui révéler des choses qu'il devait à son tour raconter. Et le Seigneur sera là avec sa main, comme à la piscine, à l'école, quand on nous mettait la perche juste à côté, il fallait s'accrocher à la perche. On était là et le moniteur ne nous lâchait pas, le Seigneur ne nous lâchera pas. Et il a dit, si des parents savent donner de bonnes choses à leurs enfants, quand l'enfant demande du pain, il ne lui donnera pas un scorpion, quand tu lui demandes un œuf, il ne lui donnera pas toutes sortes de mauvaises choses, un caillou, etc. Eh bien le Seigneur ne donnera pas un esprit de folie à quelqu'un qui lui demande l'Esprit de Dieu. Le Seigneur donnera de bonnes choses. Mais ayez soif de vivre cette présence de Dieu et même cette abondance de Dieu. Enfin, c'est comme ça que l'on goûtera vraiment à toute la vie que Dieu a prévue pour nous. Sur cette rive, sur le courant de ce fleuve, de ce torrent, pardon, il y a une vie certes. Et cette vie fait qu'il y a des poissons en abondance. Il y a même des pêcheurs en abondance. Parce que tout le long du fleuve, il y a des pêcheurs, et dans le fleuve, il y a des poissons en abondance. Il est dit comme les poissons dans la grande mer. Je ne sais pas, en ce moment, de nos jours, on fait des reportages avec des vidéos. Vous regardez des fois, ça? Hein? Ça vous plaît de voir des reportages? Je regardais à la maison, j'ai quelques vidéos, des reportages, des films qui ont été faits entiers sur les animaux, sur le flamant rose, sur l'empereur, sur divers animaux. Et à un moment, ça parle de l'océan. Et quand on voit toute cette multitude de poissons qui tournent dans le même sens, vous savez, comme une boule, ils se rassemblent et ils tournent ensemble. Ils tournent, ils sont là, des milliers de poissons. Et quand on sait que c'est Dieu qui a fait tout ça, et il y en a beaucoup des poissons. À un moment, il montrait qu'il y a les dauphins qui venaient et ils se mettaient à tourner autour et ils picoraient. Ils picoraient les poissons au fur et à mesure. Et puis, aux dauphins se rajoutaient les requins. Et le requin y mangeait. Et puis après, quand il y avait tout ça, il y avait les oiseaux, les mouettes qui se rajoutaient. Et d'en haut, les mouettes étaient piquées. Fou, et elles allaient chercher ce qu'elles avaient besoin. Et quand tout ça s'arrêtait, ben, il y avait encore autant de poissons. On ne pouvait toujours pas les compter. Tellement ils étaient nombreux. Et dans ce fleuve, il y a des poissons en grand nombre. Il y a des pêcheurs en grand nombre. Et cette pêche dont il est parlé là, nous parle à chacun que si on a l'Esprit de Dieu en nous, si dans cette assemblée on a vraiment soif de l'action du Saint-Esprit, il y aura une grande pêche. Et dans la parole de Dieu, la pêche nous parle du salut qui est répandu sur les gens. Des gens qui sont sauvés les uns après les autres. Jésus, qui va choisir des disciples à un moment, il va choisir des pêcheurs. Et alors qu'ils ont pêché toute la nuit, il va leur dire, vous avez récolté quoi? Vous avez ramassé quoi? Rien du tout, plus de poissons. Et Jésus, lui qui sait tout, il dit, jetez le filet de ce côté de la barque. Ils jettent le filet et voilà qu'il y a une pêche miraculeuse. Et quand ils arrivent au bord, Jésus va leur dire maintenant, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Réalisons-nous, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons connu la grâce de Dieu, que Dieu a encore un plan pour ce monde, que Dieu a encore soif de voir des âmes être sauvées par lui, au travers du témoignage de ses enfants. Comprenons-nous qu'il y a une moisson qui est grande. Et lorsqu'il y a l'action du Saint-Esprit, non seulement il y a des personnes qui sont interpellées par l'Évangile, il y a des poissons, excusez-moi pour l'expression, sans mépriser personne, je suis moi-même un poisson qui a été pêché par le Seigneur. Mais il y a aussi des ouvriers, il y a des pêcheurs en grand nombre. Est-ce que le Seigneur n'attend pas que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour comprendre qu'à notre tour, nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes? Des hommes, des femmes qui n'ont pas peur de dire « moi je crois en Jésus », qui n'ont pas peur de dire « mais moi je ne veux plus vivre contre le monde, comme le monde ». Et même s'il m'arrive de me louper, même s'il m'arrive de m'égarer, il m'arrive de pécher encore, je veux me rattraper, je veux revenir dans la présence de Dieu, je veux devenir pardon, demander pardon à Dieu, parce que je sais que j'ai une mission. D'autres ont besoin d'entendre parler de lui. Est-ce qu'il y en a qui réaliseront qu'il faut prendre le baptême parce que Dieu l'a demandé? C'est-à-dire publiquement s'engager devant Dieu, publiquement s'engager pour Jésus. Non seulement je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, mais je crois Dieu. Je crois ce qu'il dit et je m'engage à vivre comme Dieu l'a demandé. Est-ce qu'il y a des personnes qui disent « mais c'est vrai, pourquoi je ne suis pas encore engagé avec le Seigneur par le baptême ?» Le baptême ne sauve personne. Mais le baptême est quand même quelque chose que Dieu demande. Un signe d'obéissance, une obéissance envers Dieu, un engagement public parce que Dieu a dit « celui qui me confesse publiquement devant le monde, je le confesserai aussi devant mon Père. Celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans le ciel. » Et si le brigand n'a pas eu besoin de se faire baptiser, c'est parce que de toute façon, il n'y avait pas plus public que lui, qui était en plein sur la croix, au point que ça nous est rapporté. Quelqu'un l'a entendu, on a pu l'avoir de rapporté. Et il est mort juste après. Mais pourquoi? Pourquoi certains résistent ou ont peur du baptême? Oui, puissiez-vous vous engager avec le Seigneur, renoncer à cette vanité de vie et puis embrasser la vie de Dieu qui est répandue par son esprit. Il y a une pêche miraculeuse sur les fleuves, sur les bords du torrent de l'esprit de Dieu. Il y a aussi, des fosses et des rivages qui sont abandonnés au sel. Qui est allé en Camargue? Qui a vu les salins du Midi? Moi, je suis né dans le Midi. Qui a vu les salins du Midi? Eh bien, vous voyez, toutes ces étendues, on ne comprend pas à quoi ça sert. À une période de l'année, si on y allait, on dirait, mais à quoi ça sert, tous ces champs, il n'y a rien qui peut pousser, il y a trop d'eau. Et puis, en été, l'eau s'évapore, l'eau de la mer qui est venue jusqu'en débordant. Et puis, le sel est là, il commence à durcir, il y a la fleur de sel, il y a toute cette croûte qui se forme. Et puis après, il y a les hommes qui viennent ramasser ce sel et on est content d'en rajouter dans notre soupe, dans nos aliments, pour avoir du goût, n'est-ce pas ? Et ça s'est encore peut-être perdu. Mais autrefois, le sel servait aussi à autre chose que de donner du goût. Il servait à quoi ? À conserver la viande. À conserver la viande. Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu ne purifie personne. C'est le sang de Jésus qui purifie. Mais l'Esprit de Dieu empêche que la corruption ne revienne ou ne vienne. L'Esprit de Dieu conserve la personne dans un état d'esprit où il y aura la haine du mal et l'amour de Dieu. C'est pourquoi on a besoin d'être tout le temps rempli du Saint-Esprit, d'avoir soif de la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu pour avoir toujours cette haine du mal et cet amour de la sainteté, de ce qui est bon et de la vérité. Du sel. Un jour, un pasteur, alors qu'il voulait donner une image avant de manger, a posé la question dans un centre, je crois que c'était à Teen Challenge, il a demandé « à quoi sert le sel ?» Et il y avait une petite fille qui était là et la petite fille a dit « avoir soif !» Parce qu'un jour, elle s'était servie du sel et le pot s'était ouvert et le sel était tombé dans la soupe. Elle avait voulu goûter, elle avait bu un peu sa soupe, mangé un peu sa soupe. Et puis, elle avait eu soif tellement il y avait de sel dans sa soupe. Et elle a dit, oui, ça sert à avoir soif. Et bien, c'est vrai aussi. Le Saint-Esprit, plus on y goûte, plus on a soif. Plus on goûte au Saint-Esprit, plus on est plongé dans le Saint-Esprit, plus on a envie de zèle, plus on est zélé pour le Seigneur, plus on a soif de le servir, de chercher sa face, de lui obéir, de lui plaire et de se délecter de sa présence. Le Saint-Esprit, oui, il conserve, mais aussi il donne soif et il donne du goût. Et pour que dans le monde il y ait du goût, il faut qu'il y ait des chrétiens. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, quand on voit dans une entreprise qu'il y a des chrétiens, on voit la différence. Ce matin, une jeune sœur m'a dit, voilà, je suis arrivée à mon travail, un nouvel emploi, on avait prié pour qu'elle ait un emploi, le Seigneur lui donne un emploi, un bon poste, et elle arrive, et il y a une collègue qui lui dit, oh, tu sais quoi, je crois qu'il y a une malédiction sur tout le bureau, sur tout le secteur de travail. Et elle a dit, c'est super, parce que moi je vais amener la bénédiction. Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Elle connaît Jésus-Christ. Elle sait que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et on a beau aller dans un endroit où c'est les ténèbres qui règnent, le péché qui règne, notre place, même si elle est dure à porter et à supporter, notre place peut faire la différence. J'ai le témoignage de papa qui était dans une enseigne de grande surface et qui disait que quand il arrivait dans une discussion, ses collègues discutaient, quand il arrivait, tout le monde se taisait et disait « Ah, l'oreille chaste, l'oreille chaste ». Et les discussions étaient changées, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que les discussions ne changeaient pas. Merci Seigneur quand un enfant de Dieu réalise qu'il n'a pas à prendre part à certaines discussions, mais qu'il se tient à part, qu'il ne va pas se moquer des autres, qu'il ne va pas plaisanter avec des choses malsaines, mais qu'il va dire « Moi, tout ça, je vous le dis, je n'y participe pas. Et si les autres ne veulent pas changer, bien c'est moi qui m'en vais, je ne participe pas. » C'est dur, ça demande un effort, ça demande du courage, ça demande du sacrifice aussi, parce qu'on aimerait bien aussi partager des pauses avec quelqu'un d'autre. Mais si on le fait, on aura la présence de Dieu et elle est bien meilleure que toutes celles des autres êtres humains sur toute la surface de la terre. Et quand quelqu'un en aura besoin, c'est vers vous qu'il ira, c'est pas vers un de ses collègues. Il viendra vous voir parce qu'il aura vu la différence sur vous. Je le sais et je vous y encourage. Quatrième chose que je remarque, c'est des arbres fruitiers. Il y aura des arbres qui vont fleurir, qui vont pousser tout au bord de ce torrent. Et ces arbres font penser à la connaissance qui grandit, comme une graine qui est plantée et qui commence à germer, qui grandit et qui devient un arbre. Je crois que nous sommes appelés à grandir au bord du fleuve du Saint-Esprit, puisqu'il est le pédagogue, l'enseignant, il est celui qui est le professeur par excellence, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui nous enseignera toutes choses et que Jésus nous a laissées pour que nous ne soyons pas orphelins, mais pour que nous connaissions la vérité. Le Saint-Esprit permet à chacun de découvrir et de comprendre ce que Dieu a voulu nous laisser, ce que Jésus a voulu nous laisser sur la terre, la parole de Dieu, bien la comprendre pour bien grandir et bien mettre en pratique la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu si ce n'est par sa parole? C'est le livre par excellence, c'est d'ailleurs le seul livre que Dieu nous a laissé, et encore je l'appelle livre mais c'est une bibliothèque. 66 livres qui nous ont été laissés, rassemblés en un recueil pour nous encourager, pour nous guider. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Puissions-nous comprendre que par l'Esprit de Dieu, la Bible peut être ouverte comme une huître qui s'ouvre. Lorsqu'elle est en sécurité, le Saint-Esprit nous ouvre les secrets de la parole de Dieu. Combien de personnes ont commencé à lire la Bible et ont dit « j'arrête, j'ai rien compris ». Et il n'y a que l'action du Saint-Esprit en nous qui peut nous dire, qui peut nous encourager à dire « continue, continue à lire, si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard ». Tu vas y arriver. Ne te décourage pas. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ça. Qui dit mais persévère. Et qui peut nous aiguiller peut-être dans une lecture particulière, pour un besoin particulier. Le Seigneur est tout puissant et par son Esprit, il nous conduit, il nous donne la connaissance de Dieu, la connaissance du Fils, la connaissance du Père. Oui, cette connaissance qui grandit. Et ces fruits qui sortent, je crois que c'est les œuvres de la connaissance. C'est le fruit de la connaissance. Parce que quand on connaît Dieu, quand on connaît la volonté de Dieu, on peut faire les œuvres de Dieu, celles qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et ces fruits sont comme une nourriture. N'êtes-vous pas rassasié quand vous avez accompli la volonté de Dieu? La dernière fois, on en parlait avec Michael, je ne sais pas si tu t'en souviens. Dieu nous a encouragés. Voilà. On a pu parler de lui. Et il y a comme une satisfaction, comme, je ne sais pas, on est comme rassasié à avoir fait la volonté de Dieu. On ne l'a pas fait par nous, on ne l'a pas fait parce qu'on est meilleur, on n'a pas fait parce que c'est facile pour nous. Ça demande toujours du courage de parler aux autres, même pour un pasteur. Et il y a quand même une joie, une satisfaction qui est là. Et ce fruit qui est comme une nourriture, quand on accomplit la volonté de Dieu, c'est comme une nourriture qu'on aurait mangée, qu'on aurait priée. Des fois, on peut dire, mais je vais jeûner, non pas pour mériter, mais parce que je veux chercher la face de Dieu. Parce que j'ai besoin d'un cœur à cœur avec Dieu, alors le temps que j'ai pour manger, je vais le passer avec le Seigneur, parce que c'est vrai qu'on a une pause pour manger, peut-être qu'on préférera la passer devant le Seigneur qu'à manger, alors dire voilà Seigneur, je mets ce temps à part, mais malgré le fait qu'on ait sauté un repas, ou deux, ou dix, peu importe, ça c'est pas important, il y a comme une satisfaction, une nourriture spirituelle qui est là. Et Jésus qui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sortira de la bouche de Dieu. Il y a comme une nourriture qui est là, spirituelle, la connaissance qui nous fait porter du fruit. Si je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne pourrais pas la faire. On est d'accord. Et j'ai besoin de puiser mes forces, de puiser ma connaissance au bord, dans la présence, dans la communion du Saint-Esprit. Et lorsque je suis en communion avec mon frère, ma sœur, je suis dans la communion du Saint-Esprit. Et lorsque je suis en communion par la parole de Dieu, je suis dans la communion du Saint-Esprit, puisque la parole est l'épée de l'Esprit. Et lorsque je suis tout simplement devant la face de Dieu, je suis aussi en communion et celle du Saint-Esprit. Il y a des feuilles qui poussent aussi, des feuilles qui poussent et qui guérissent. Et ça me fait penser un peu à ce psaume premier qui dit « Heureux l'homme qui médite la parole, la loi de l'Éternel jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point et qui porte son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Parce que je médite la parole, parce que j'enrichis la connaissance, il y a comme une croissance qui se fait dans mon cœur, comme quelque chose qui est là, même si le soleil tape fort, je m'en sers pour grandir, je puise la lumière qu'il faut par la photosynthèse, j'en sais rien, tous ces trucs qui se font là, un peu scientifiques, et hop, la plante grandit, mais elle n'est pas desséchée, pourquoi ? Parce qu'elle est près d'un courant d'eau, elle est près de la parole de Dieu, la parole de Dieu est toujours dans son cœur, je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a une proximité avec la volonté de Dieu et ses feuilles qui guérissent. Est-ce que ce n'est pas aussi, ça ne peut pas être les paroles que je répète, que j'ai entendues de Dieu et qui font du bien, qui peuvent guérir un cœur. Un verset que j'ai appris par cœur ou un verset tout simplement qui me revient, que j'ai lu ou un récit biblique ou une expérience biblique qu'un homme, une femme a vécu et que je peux rappeler et dire, vous savez, vous passez par telle situation. Souvenez-vous tel passage. Souvenez-vous tel passage. C'est jeudi soir. Mardi soir, une sœur vient vers moi à la sortie et me dit, voilà Jérémy, qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui veut aller vers des guérisseurs ? Elle vient de prendre rendez-vous pour son fils, son petit-fils, pour l'amener à un guérisseur. Je voudrais tant lui parler, c'est quelqu'un que je connais de ma famille, je crois, je voudrais tant lui parler. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce qu'il n'y a pas un verset à propos, etc. ? On a pris quelques versets, etc. On a pris quelques versets et puis j'ai dit, de toute façon, peu importe nos faiblesses, je crois que l'important, c'est de connaître le Seigneur. Et tu connais le Seigneur. Alors on va le prier, on va le supplier de donner les mots qu'il faut et peut-être au-delà des mots, d'agir par son Saint-Esprit pour que cette personne n'aille pas prendre ce rendez-vous et n'aille pas là-bas. Et si jamais elle y allait, pour que le guérisseur ne puisse rien faire à cet enfant. Puisque je vous le dis, je me dois de vous le dire, tout ce qui est guérisseur, gris-gris, porte-bonheur, voyant, etc., c'est diabolique, ça lie les gens et ça pousse les gens, ça permet aux gens, au diable, de posséder les gens par des démons. Je vous le dis comme ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Ne touchez pas à ces choses. Éloignez-vous de l'astrologie, de toutes ces choses. Lisez Deutéronome chapitre 18, verset 9, si vous n'êtes pas convaincu. Et on partageait ça. Et tout à l'heure, ce matin, cette sœur me dit, Jérémy, je ne savais pas comment le dire, alors j'ai écrit un mail à la personne, et elle m'a répondu, avant que tu m'envoies le mail, j'ai pris la décision d'annuler le rendez-vous, c'est fait, j'ai annulé le rendez-vous, je n'y vais pas, j'ai compris que ce n'était pas bon. Et elle était toute contente de voir que, avant même que les mots aient pu sortir, eh bien Dieu avait entendu la prière. Dieu avait entendu. Et puis ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je crois que, quelquefois, on peut avoir des paroles, on peut échanger des choses. On peut prier simplement avec quelqu'un. Et par la prière, pas que la prière en elle est un pouvoir, mais par celui qu'on prie, par celui en qui on se confie, eh bien on peut être secouru. Et on peut faire des biens, et quelqu'un peut être même guéri. Cette sœur n'avait pas la paix ce soir-là. Quand on a prié, elle s'est mise à pleurer, et puis elle a choisi de se confier dans le Seigneur, et le Seigneur a récompensé sa foi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, il y a des fruits, il y a des feuilles qui poussent comme cela, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, il bénit. Et on va bientôt terminer. Dans Actes chapitre 1, versets 7 et 8, prenez-le avec moi. Jésus va quitter les apôtres avant de retourner au ciel et il va répondre quelque chose. Il va dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il est dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit quand il surviendra sur vous. C'est ça que ça veut dire. Recevrez la puissance du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit, Jésus était en train de leur dire. Attendez à Jérusalem, attendez, priez, demandez au Père, attendez la promesse, parce que vous avez besoin de cette puissance pour être efficace dans le service que vous avez à accomplir. Recevoir une puissance, c'est quoi cette puissance? Comment ça se transforme? Est-ce qu'on va déplacer des montagnes? Est-ce que c'est ça la puissance que Dieu veut manifester dans nos vies? Est-ce que c'est simplement toutes sortes de guérisons miraculeuses, etc.? Bien que, gloire à Dieu pour les guérisons, j'ai été bénéficiaire des guérisons de Dieu. Plusieurs d'entre nous, cet après-midi, avons vécu une guérison particulière de Dieu. Mais c'est quoi vraiment cette puissance que Dieu veut mettre dans notre vie? Je crois que la meilleure définition de cette puissance est dans Galates, au chapitre 5 et au verset 22. Je crois que la clé de la puissance de Dieu, la vraie puissance que Dieu veut répandre sur nous, elle est d'abord là. Quelqu'un qui me dira, oui, moi je fais des miracles dans le nom de Jésus. Moi je chasse des démons dans le nom de Jésus. Moi je fais toutes sortes de choses dans le nom de Jésus. Moi je prophétise, moi je ci, moi je là. Mais qui n'a pas ces choses, ne peut pas dire qu'il est puissant. Selon Dieu. Souvenez-vous de ces hommes qui sont arrivés vers Jésus, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. On ne veut pas être de cela. Alors qu'est-ce que c'est véritablement recevoir la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit? Galates chapitre 5, verset 22. Je vous le lis dans la version Darby. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ou alors, il est dit, la loi n'est pas contre ces choses. Vous avez lu? Alors, vous pouvez vous sonder et dire, Seigneur, est-ce que je suis puissant? Je veux vérifier, Seigneur, est-ce que je suis vraiment puissant? L'amour. Avons-nous de l'amour pour notre prochain? Avons-nous de l'amour pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles? Avons-nous à cœur qu'ils soient au Seigneur? Est-ce que ça nous arrive de pleurer parce que nos frères, nos sœurs, nos parents, nos tantes, nos oncles ne sont pas encore au Seigneur? Ou nos enfants? Est-ce qu'on est encore dans cet état d'esprit de dire, Seigneur, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime ces personnes, je les veux pour toi, Seigneur. J'aime aussi mon frère spirituel, j'aime ma sœur spirituelle. Tu vois peut-être la différence d'opinion, mais je veux l'aimer de tout mon cœur. Donne-moi de l'amour. Est-ce qu'il y a de la joie? Cette joie qui surpasse toute intelligence. Le péché nous enlève la joie. Je peux vous le dire, ça m'arrive. Le péché nous enlève toute joie. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, il faut se réfugier, se cacher en Jésus-Christ. Se rappeler que, qu'importe le péché qu'on a commis, qu'importe la faute que nous avons commise, quelqu'un a payé pour nous, quelqu'un est mort sur la croix, quelqu'un est même ressuscité pour approuver que son sacrifice est approuvé, c'est Jésus-Christ. Et la seule chose qu'on a à faire et qu'on puisse faire, c'est de se cacher derrière Jésus. On a honte peut-être de notre péché, on a honte de nos iniquités, on aurait honte si tout ce qu'on a fait s'affichait sur le vidéoprojecteur. Moi j'aurais honte. Alors la solution, je me cache en Jésus. Seigneur, je ne mérite rien, moi je suis honteux. J'ai honte de moi-même, mais tu m'as tant aimé que tu t'es donné pour me sauver. J'ai tellement de valeur à tes yeux que si ça avait été uniquement pour moi, tu te serais donné pour moi. Toi, tu as offert ta vie, tu as versé ton sang sur la croix et ce sang, c'est le prix de mon âme, c'est le prix de ma vie, pour me donner une vie meilleure. Alors Seigneur, en toute humilité, je ne veux pas être, je veux te laisser être en moi. Seigneur, grandis en moi. Par ton esprit, inonde-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Je te laisse la place, comme on a chanté. Prends tout, Seigneur, sois en moi, je ne veux pas d'autre Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Seigneur, je me cache en toi et j'apprends l'humilité. Oui, la joie, elle revient quand on sait qu'on est pardonné de Dieu et que tout est effacé. La paix, c'est la même chose. La paix de Dieu, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. La longanimité, littéralement, c'est la patience à supporter les souffrances. Longanimité. Patience à supporter les souffrances qu'on pourrait réprimer. Des fois, on nous fait souffrir et on pourrait se venger. La longanimité, c'est choisir de ne pas se venger. De supporter et de compter sur la grâce de Dieu pour nous délivrer. La bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Toutes ces choses qui font qu'on est puissant dans le Seigneur. Quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de puissant dans le Seigneur. Est-ce que vous croyez ça? Celui qui s'emporte à tout va, la Bible dit dans les Proverbes que c'est un insensé. Alors que celui qui est sage, il cache sa colère, il retient sa colère. La patience, de la douceur, est-ce que j'ai un caractère doux ou est-ce que je m'emporte pour un rien, etc., etc. La bienveillance, est-ce que je veille au bien de mon prochain? La bonté, est-ce que je fais le bien envers mon prochain? Est-ce que, la fidélité, est-ce que je suis fidèle à mes paroles, à mes engagements? Est-ce que je suis fidèle à ma femme, à mon époux? Est-ce que je suis fidèle à Dieu, tout simplement, et au Seigneur Jésus-Christ? Puissions-nous être puissants de cette puissance-là, de l'action du fruit de l'Esprit dans nos cœurs. Amen. Comment recevoir? Très très simple. Galates chapitre 3, verset 1er, courte lecture. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Question. Est-ce par les œuvres de la loi que l'on obtient le Saint-Esprit, qu'on le reçoit, ou est-ce par la prédication de la foi? Est-ce que je peux mériter le Saint-Esprit ou est-ce que je le saisis par la foi? Question. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne méritera jamais quoi que ce soit de Dieu si ce n'est sa colère. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut mériter aucune bénédiction de Dieu, ni même le salut, ni quoi que ce soit. Ce n'est que par grâce que nous obtenons les choses de Dieu. Même, pas les choses, la personne et la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est par la foi que je m'empare du baptême dans le Saint-Esprit. C'est par la foi que des langues nouvelles sortent de ma bouche. C'est par la foi que je prophétise. C'est par la foi que je donne des paroles de connaissance. C'est par la foi que je donne des paroles de révélation. C'est par la foi que j'accorde une parole de sagesse, que je transmets plutôt une parole de sagesse qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu. Sachez ceci, pour toute prophétie, pour tout charisme de Dieu, c'est-à-dire toute grâce, tout cadeau de Dieu que Dieu fait à son Église, il y aura un moment où vous devrez croire que c'est de Dieu. Parce que le doute, il le sera toujours. Est-ce bien de moi? Est-ce bien de Dieu? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois me taire? Etc. Et un jour, vous devrez, par la foi, devenir un instrument de Dieu qui ne discute pas ce qu'il reçoit de Dieu, mais qui le dit, parce qu'il saura que c'est la vérité. Il l'aura d'abord. Regardez si dans la parole, c'est censé. Il faut un minimum de connaissances, bien sûr. Et puis si vous manquez une foi, ayez aussi la douceur de caractère, d'accepter une remarque, un aiguillage, une correction de Dieu, et une correction que Dieu fera par son serviteur peut-être, non pas pour vous écraser, mais pour vous encourager. D'accord? Mais l'Église, l'Assemblée a besoin de ce torrent qu'il puisse se répandre au travers de nous, en nous et sur nous. Dieu veut qu'on soit plongé dans la présence de Dieu, plongé dans les choses divines, et non pas qu'on reste au bord comme si on pouvait vivre éternellement comme cela. Le Seigneur veut que nous apprenions à nager, etc. Je vous raconte une dernière anecdote, on termine. Parmi les plantes aquatiques, il en est une qui possède une particularité assez remarquable. Sa fleur s'épanouit à la surface des eaux, alors que ses racines sont profondément enfoncées, beaucoup plus bas, dans le fond de l'étang. Elles sont reliées à la fleur par une longue tige, très flexible, semblable à un cordon. Immédiatement, dès que la surface de l'eau commence à frissonner par l'approche d'une barque ou d'un nageur, ou même par un vent violent, on peut voir la fleur replier ses pétales, se refermer sur elle-même et disparaître dans l'eau. C'est la tige qui s'est rétractée de manière à ramener la fleur en sûreté au fond de l'eau. Elle ne la laissera pas remonter à la surface que lorsqu'elle sera redevenue parfaitement calme. Dieu a pourvu cette plante d'un merveilleux moyen de protéger sa fleur délicate. Quand l'ennemi rôde autour de nous, réfugions-nous immédiatement à l'abri du Tout-Puissant. Amen. Dieu veut que nous vivions plongés dans la présence, dans sa présence, plongé dans l'Esprit Saint, rempli de sa puissance. Pourquoi être plongé dans l'eau? Pourquoi être plongé dans le Saint-Esprit? Quand on plonge dans l'eau, on ressort comment? Mouillé. Quand on est plongé dans le Saint-Esprit, on ressort comment? Puissant. Voilà pourquoi le Seigneur qu'on soit baptisé dans le Saint-Esprit, pour qu'on ressorte puissant. Et on doit être comme cette plante qui vit dans l'eau. Il y a juste une petite partie qui sort à la surface parce qu'on ne fait pas qu'être dans un autre monde, on est aussi en contact des autres. Mais dès qu'on sent qu'il y a quelque chose d'impur ou un danger ou quoi, on se réfugie dans la présence de Dieu. Et on se protège. Et quand la tempête est passée, on revient prendre le soleil, on revient témoigner, on revient parler, on revient partager ce qu'on a reçu de Dieu. Que Dieu puisse répandre de son esprit sur chacun de nous. Que ça vous donne soif de la présence de Dieu. Relisez Ézéchiel 47. Faites-vous du bien et cherchez à recevoir ce que Dieu a promis par ses prophètes et dans sa parole. Amen. Merci Père de nous avoir promis le Saint-Esprit par la bouche de ton Fils. Merci encore d'avoir accordé le jour de la Pentecôte le baptême dans le Saint-Esprit. Merci de l'avoir accordé à ses disciples qui en avaient encore besoin pour avoir de l'assurance et lorsque tu as fait trembler les murs. Merci encore d'avoir accordé à Corneille et à toute sa famille le baptême dans le Saint-Esprit lorsque Pierre a prêché. Merci d'avoir accordé à ces gens d'Éphèse le Saint-Esprit qui ne connaissaient pas l'existence de l'Esprit-Saint. Merci encore d'avoir répandu ton Esprit-Saint sur toute l'Église primitive, encore sur toutes les églises qui nous ont précédés. Merci encore de le faire sur chacun de nous, en particulier. Nous ne voulons pas être le maillon qui n'aura pas profité de toute la bénédiction que tu as prévue pour tes enfants. Ce maillon qui perd, Seigneur, le fruit de ce réveil que tu as suscité pour que le baptême dans le Saint-Esprit soit à nouveau répandu. Merci encore de faire que chacun soit un vase, non pas vide, mais rempli de toi. Pas rempli des choses du monde, pas rempli des plaisirs du monde, mais rempli de toi. Pardon, Seigneur, pour le temps que l'on perd, Seigneur. Donne-nous de racheter le temps. Accorde-nous la force et l'intelligence, Seigneur, de profiter de tout ce que tu as prévu pour nous. Je te dis merci pour toutes les grâces que tu répands en abondance. Tu raccompagnes chacun d'entre nous dans ta paix et dans ta joie. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur.